Je sais pas pour vous, mais moi j'ai commencé à être un peu fatigué. Oui, c'est vrai pour moi, je suis faible. Mais donc je pense qu'on a besoin de quelque chose de fun. Donc on va commencer avec un petit vidéo que ma femme a trouvé en ligne. Ce n'était pas moi qui l'a fait, mais c'était marrant quand même. Ah ouais, voilà. Une histoire vraie, il faut préciser.
C'est avoir beaucoup de peine à obéir.
Jonas désobéit. Quel homme.
Il dit, partons d'ici.
Puis il court jusqu'au bord de l'eau, saute sur un navire. Il s'éloigne avec le bateau sur la mer qu'il admire.
Et voilà, Jonas a réussi à partir loin de Dieu. Mais attends, tout n'est pas fini.
Dieu n'a pas oublié cet homme, l'ouragan s'est levé, le gros bateau va chavirer. Pourquoi cette tempête, Jonas ayant tout avoué? Dans la mer on le jette. Tchouf. Jonas va se noyer,
pauvre homme,
mais il est avalé par un poisson très gros, très long. Jonas effrayé crie, puis dans son étrange prison, il se repent et prie. Au bout de trois longs jours, notre homme, enfin revoit le jour. Sur la rive, il est rejeté, puis il court vers la ville. Maintenant, il est décidé d'être toujours docile.
Alors, ça veut dire qu'il faut toujours obéir?
Donc j'espère que ça vous inspire pour jeudi soir.
C'est un faux évangile.
Donc voilà, ça c'est souvent le cas avec les histoires pour les enfants chez Jonas. Mais maintenant on va continuer avec chapitre 3. Donc chapitre 3, ça manque dans les histoires des enfants. Donc j'invite Paul à venir lire chapitre 3. Donc il faut bien d'avoir chapitre 3 devant, ouvert devant vous. Ouais. Ou ici, si tu veux.
Donc Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère de sorte que nous mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'il renonçait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et non le fit.
Merci Paul. On arrive donc à la deuxième essai, c'est Take Two maintenant, où l'Éternel ordonne à Jonas d'aller à Ninive pour crier. Encore cette fois, on a notre mot hébreu préféré, kara, c'est ça exact. L'ordre que l'Éternel donne à Jonas est presque le même que chapitre 1, verset 2, sauf l'idée de crier contre Ninive. Cette fois-ci, c'est plutôt crier avec le message que je te donne. Mais c'est toujours le même mot pour revenir encore à ce thème de crier, crier, crier. Verset 3, c'est clair que c'est clair cette fois-ci la réponse de Jonas. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de Dieu, de l'Éternel. Il a fait ce qui lui a été demandé. L'auteur ne précise pas l'attitude de Jonas à ce moment-là, mais ce n'est pas un voyage court entre Jaffa ou au moins la mer Méditerranée et Ninive. Il y avait peut-être un mois, quelques semaines, pour faire le voyage entre eux. Donc il a du temps pour réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on connaît de Ninive? On sait que Ninive était une grande ville du royaume assyrien. Le royaume assyrien, une certaine centaine d'années avant, était une grande menace contre Israël. Mais pendant ce moment d'histoire, l'Assyrie était un royaume puissant de la région, mais pas une menace directe à Israël. Une vingtaine ou trentaine d'années après, l'Assyrie est devenue encore menace à Israël, mais pour l'instant un ennemi, mais pas une menace. Concernant Ninive, le texte de Jonas précise quatre fois que Ninive était une grande ville. Au verset 3, Jonas dit qu'il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Probablement pas dans le sens littéral qu'il fallait trois jours de marcher pour traverser ou pour marcher autour de la ville. C'est probablement une référence à une visite diplomatique ou prophétique comme celle de Jonas. Mais quand même, le texte présente Ninive comme une grande ville, et en tout cas, une ville à laquelle Dieu s'intéresse. Dieu, il a créé toute la terre, il a créé les habitants de Ninive. C'est facile pour Jonas et les gens d'Israël de penser selon cette idée de henothéisme, que l'Éternel est seulement leur Dieu. Ils ont une petite vision de l'Éternel. Mais on apprend de plusieurs coups dans ce livre que l'Éternel est le Dieu de toute la terre. Il a tout créé, donc il s'intéresse à tout peuple de la terre. L'Éternel s'intéresse à cette ville de Ninive au point qu'il a empêché la fuite de Jonas avec la tempête, avec le poisson. Il s'intéresse beaucoup plus que Jonas. Jonas, il s'en fiche. L'Éternel s'intéresse à sa création. Il n'est pas trop petit pour s'intéresser seulement à Israël. Il n'est pas trop grand pour s'intéresser à une ville qui est en dehors de l'Alliance. Il n'est pas trop grand pour s'intéresser à nous et à nos problèmes. Il est si grand qu'il peut et qu'il veut s'intéresser à nous et à nos problèmes. Jonas arrive donc dans cette grande ville. On pourrait dire beaucoup de choses sur le caractère de Jonas, mais il est courageux, peut-être à la folie. Il arrive dans cette grande ville méchante avec un message. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Finalement, il crie. encore notre mot hébreu préféré. Il a résisté depuis le commencement du livre. Mais si enfin Jonas crie contre Ninive, ne trouvez-vous pas courageux ce message? Peut-être Jonas a proclamé plus que cette seule phrase. On a déjà le sens qu'il ne cherche pas la repentance des habitants de Ninive. Il proclame après une journée de marche. Il n'y a pas d'urgence pour lui. Puis son message, dans 40 jours, le nombre dans la Bible pour parler d'une période assez longue. Il n'y a pas d'urgence. Le message est un message de jugement, pas un appel à la repentance. Jonas, qu'est-ce qui devrait s'attendre comme réponse? Parlez avec votre voisin, là, en posant cette question. Jonas, que devrait-il s'attendre aux habitants de Ninive? Ouais, c'est cool. Hein. C'est cool. Y a un an et demi. Ouais, c'est cool. Ok, il y a beaucoup de possibilités. On continue pour voir. Tout de suite après ce message de Jonas en verset 4, on a tout de suite la réponse. Verset 5. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Quelle réponse! Il croit à Dieu et son message. Il se humilie face à leurs offenses. C'est une réponse totale. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, même le roi se déplace de son trône, renonçant son autorité, et il s'assoit sur la cendre habillé en sac, les signes d'humilité complète. Ce n'est pas du tout normal pour un roi d'agir d'une telle façon. C'est possible pour le peuple, mais pour un roi? Croyez-vous qu'une telle réponse est possible? Repentance totale pour tous les habitants d'une grande ville. Est-ce possible? Si on n'arrive pas à imaginer qu'une telle réponse est possible, peut-être on doit encore une fois revenir à la leçon de chapitre 1. L'Éternel, il est plus grand qu'on imagine. Il existe pas mal d'explications des gens qui veulent rendre cette réponse plus croyable. Par exemple, peut-être il y avait un signe avant Jonas, genre une éclipse, un tremblement de terre. Puis avec l'arrivée de ce message de Jonas, ça a confirmé le signe. Le message de Jonas fonctionnait comme interprétation du signe. Mais Jonas n'a pas mis ce détail dans le texte. Jonas, l'auteur, qu'est-ce qu'il veut que nous prenions de ce texte? Il veut frapper les lecteurs avec la grandesse de la réponse chez Ninive. Jonas ne donne pas d'autre explication pourquoi ils ont renoncé leur mal. Parce que c'est tout simplement un miracle de Dieu. Tout comme le poisson. Je trouve encore plus frappant cette réponse de repentance que le poisson. Il est possible, mais on ne s'attend pas à un tel événement. Il est complètement un miracle que les habitants de Ninive croient à Dieu. Avoir un poisson qui avale et garde un homme pendant 3 jours, ça se fait apparemment. Mais la repentance d'une ville, d'une grande ville, même une ville qui ne connaît pas Dieu auparavant, c'est vraiment un miracle. Mais en fait, la repentance est toujours un miracle, n'est-ce pas? Il est toujours miracle que les ennemis de Dieu viennent à la repentance. Il faut un miracle pour que Jonas retourne à l'Éternel. Il faut un miracle pour que Israël se repente. Il nous faut un miracle aussi. Nous tous qui étions les rebelles contre Dieu, Dieu a fait un miracle en nous amenant à la repentance. S'il peut faire ce miracle de repentance, et il est tout puissant, pourquoi pas beaucoup de miracles? C'est intéressant que Jonas prenne la plupart de sa description de la réponse pour parler du roi de Ninive, entre versets 6 et 9. Je crois qu'il veut montrer ce qui est le caractère d'un bon roi, d'un vrai leader. Le roi de Ninive issue une proclamation. Parole du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force, qui renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Le roi ordonne à tout être dans son royaume d'observer le jeûne de repentance, de crier à Dieu et de renoncer à leurs actes de mal. Même les animaux doivent observer le jeûne. Tout le monde, y compris les bêtes, ils doivent s'habiller en sac. Je trouve rigolo cette idée que les bêtes, eux aussi, doivent être couverts en sac. Mais c'est pour montrer la totalité de la réponse. Dans la proclamation, le roi ordonne qu'ils doivent crier à Dieu avec force. Et bien sûr, c'est encore le mot thématique traduit par crier, le mot hébreu « kara ». Ce n'est pas seulement de crier, mais aussi de renoncer à leur mauvaise conduite et aux actes de violence. C'est vraiment un changement d'attitude, une confession de culpabilité. On disait le premier jour que le rôle d'un roi à l'époque n'est pas seulement politique, mais c'est également spirituel. Le roi David a fait un bon exemple pour le peuple d'Israël. Il n'était pas parfait, mais il a reconnu ses fautes en essayant de suivre l'Éternel, comme quoi il a fait modèle pour son peuple. Jéroboam, il a fait le contraire. Il a péché en établissant les idoles de veaux en Israël. Les autres rois ont fait de la même façon, jusqu'au roi courant, Jéroboam II, qui n'a pas renoncé les fautes de ses ancêtres. Mais à Ninive, face à une menace de destruction à cause du péché, ce roi de Ninive a guidé son peuple dans le chemin de repentance. Pas seulement avec l'ordonnance, parce qu'il s'est humilié aussi. Il a fait exemple pour son peuple. Le vrai leader est celui qui est prêt à soumettre à l'autorité de Dieu. Pas seulement dans le contexte d'Israël, mais plus globalement, le vrai leader est celui qui est prêt à soumettre à l'autorité de Dieu. En le roi de Ninive, on a un exemple d'un tel leader, même avec un roi en dehors d'Israël. Quelle condamnation pour Jéroboam! C'est frappant de comparer la repentance, entre guillemets, de Jonas au chapitre 2 avec cette réponse. Ce qui est plus frappant pour moi, c'est qu'il y a un manque de présomption chez le roi de Ninive, Pour Jonas, il était si convaincu par le caractère de l'Éternel qu'il ne devrait pas se détourner en repentance. Il a présumé sur la grâce de l'Éternel. À cette époque-là, Jonas, le personnage de l'histoire, il ne comprenait pas le caractère de l'Éternel. Il ne comprenait pas l'Alliance. C'est pourquoi Jonas, l'auteur, a écrit pour montrer à Israël à quel point ils ne comprennent pas l'Éternel et son alliance avec eux, pour critiquer leur manière de penser, qu'ils peuvent continuer à pécher sans conséquence, comme l'Éternel est plein de miséricorde. Ils pensent que l'Éternel va tolérer leur péché à jamais, mais le péché a des conséquences. Ce qui est marrant avec le roi de Ninive, c'est qu'il ne connaît même pas l'Éternel. Est-ce que vous avez observé un petit changement dans le texte entre versets 5 et 10? Il ne parle plus de l'Éternel, c'est changé pour Dieu. Jonas a parlé de l'Éternel au marin, tandis qu'ici, il n'annonce pas l'Éternel. Donc le roi ne connaît pas cet Éternel, il ne connaît pas son caractère, donc il n'avait pas d'occasion pour présumer là-dessus. Si le roi qui ne connaît pas l'Éternel peut crier à Dieu avec humilité sincère, sans hypocrisie, combien plus le roi d'Israël devrait-il crier? Le peuple d'Israël connaît le miséricorde de l'Éternel alors qu'il ne crie pas. C'est absurde. Ils continuent dans leur idolâtrie. C'est quoi la réponse? Même si Ninive ne connaissent pas le caractère de l'Éternel, heureusement pour eux, il est un Dieu plein de grâce. On voit la réponse de l'Éternel en verset 10. Dieu vit ce qu'ils faisaient, les habitants de Ninive. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés. Il ne le fit pas. En réponse à la repentance sincère de Ninive, l'Éternel n'a pas fait la destruction. Quel Dieu est-il? Il est prêt à pardonner ce peuple? Il a envoyé Jonas avec un message de jugement, un message d'avertissement, et le message n'était pas pour rien. L'Éternel voulait qu'ils s'étonneraient de leur mal. Sinon, pourquoi envoyer Jonas avec ce message? L'intention était un changement d'attitude. On peut grignoter un verset de demain pour avoir un petit aperçu de la réponse de Jonas. Chapitre 4, verset 1. Jonas le prit très mal et fut irrité. Jonas n'est pas content. La différence entre l'Éternel et Jonas est énorme. L'Éternel, le Dieu qui est le Dieu de toute la création, le Dieu qui est si juste, si saint, qui a des yeux qui sont trop purs pour voir le mal. Ce Dieu arrive à pardonner cette ville. Quant à Jonas, le prophète désobéissant, il le prend très mal et il est irrité. On va revenir demain à Jonas et sa réaction à Ninive. Revenons à la question des premiers lecteurs. Quand les premiers lecteurs voient cette réponse, cette repentance de Ninive, puis la pardon de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils pensent? J'imagine qu'Israël est d'accord avec le message de jugement contre Ninive pour ce mal. C'est facile de juger le péché chez les autres. Mais il existe les mêmes sortes de péchés, la même sorte de mal en Israël. Si on tourne vers les prophètes contemporains de Jonas en Israël, à Osée et à Amos, on y voit les condamnations pour la violence, pour l'arrogance, pour l'abus des pauvres, pour l'infidélité, pour l'idolâtrie. Israël a également mérité le jugement de l'Éternel. Ninive était vite à se détourner du mal. Mais pour combien de temps Israël a-t-il toléré le mal parmi eux? Comme on a vu en chapitre 1, l'Éternel est beaucoup plus grand qu'on imagine. Pour eux qui habitent un monde de énothéisme, ils se rendent compte que l'Éternel n'est pas Comme les autres dieux des autres pays, il est le vrai Dieu, il est le Créateur, à qui appartient le ciel, la mer, toute la terre et tous ses habitants. L'Éternel s'intéresse même aux autres nations. Il ne supporte pas le mal dans les autres nations, mais il est prêt à pardonner ceux qui s'humilient, ceux qui se repentent. C'est un message pour Israël qui les culpabilise pour leur iniquité, mais en même temps, c'est un message rassurant. Parce que ce livre montre le caractère de l'Éternel, qu'il est prêt à pardonner ceux qui détournent en repentance. Pas seulement qu'il est prêt, mais il a hâte de le faire. Il attend avec impatience la repentance d'Israël. Il ne prend pas plaisir avec cette rébellion chez Israël. En Ézéchiel, l'Éternel dit, il dit, « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir les méchants mourir, mais à le voir le conduite de vie et vivre. Renoncez. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Voici le cœur de l'Éternel pour son peuple. Il est comme un père qui voit ses enfants en rébellion. Il veut que ses enfants retournent chez lui. En Ézéchiel, il le dit explicitement. Mais si, en Jonas, il le dit plus subtilement. Il essaie tout moyen pour convaincre son peuple à revenir. Aujourd'hui est toujours le moment de repentance. Israël présumait sur la miséricorde de l'Éternel. Il ne cherchait pas la repentance. Tout comme Ninive était un miroir pour Israël, pour provoquer les réflexions, Ninive et Israël fonctionnent pour nous comme un miroir. On se pose les mêmes questions. À quel point sommes-nous similaires à Israël? Sommes-nous contents avec le jugement de l'Éternel vers les autres gens qui font plein de mal, tout en tolérant le mal qui existe chez nous? Parce qu'on présume sur la miséricorde de Dieu. Mon péché, ce n'est pas aussi grave que ça. Parfois, on peut trouver facile à justifier le péché qui existe chez nous. On peut penser que finalement, ce n'est pas grave, c'est juste un petit bémol. Ou alors, on peut justifier le péché qui dure chez nous en disant, « Oui, j'ai un problème avec tel ou tel péché, mais regarde ce que je fais pour Dieu. » Mais il n'est pas un Dieu qui met nos actions sur une balance, les mauvaises d'un côté, les biens de l'autre côté. Il est un Dieu qui ne tolère pas le péché. Ça, c'est son caractère. Nous devons être comme lui, en ayant le caractère qui ne tolère pas le péché. Il veut que nous conformions à l'image de Jésus dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine de nos paroles, dans le domaine de notre comportement, dans nos études, au travail, dans le domaine comment on utilise nos corps, comment on utilise notre sexualité, comment on utilise notre argent, comment on utilise notre temps libre. Dieu, il s'intéresse à tous les domaines de nos vies. Pas pour trouver des justifications pour nous punir. Il s'intéresse à tous ces domaines de nos vies parce qu'il veut parce qu'il a une meilleure façon de vivre. Conformer à l'image de Jésus n'est pas pour nous priver de ce qui est bon, mais c'est la façon par laquelle il nous donne l'occasion de vivre les vies heureuses. Dieu ne tolère pas le péché. Nous aussi, on ne tolère pas le péché. Quel Dieu suivons-nous? Un Dieu qui est juste, et son jugement et colère contre le mal, mais aussi un Dieu qui est prêt à pardonner, un Dieu qui adore la repentance. Soyons les gens caractérisés par la repentance. Je ne sais pas à quoi Jonas s'attendait en arrivant à Ninive avec sa proclamation de jugement. Mais pour moi, arrivé dans une ville réputée pour sa méchanceté, je ne m'attends pas à une telle repentance, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. C'est quoi nos attentes pour nos facs? Je vous avoue qu'assez souvent, quand je marche dans la fac, je vois les centaines de gens autour de moi qui ne connaissent pas Dieu. Je me mets à être triste parce que je ne m'attends pas au miracle de leur conversion. Mais pourquoi? Si je me rends compte qu'on a le même Dieu qui a pardonné les habitants de Ninive, pourquoi pas? Pourquoi pas s'attendre à un tel miracle? La repentance d'une personne est déjà un miracle. Pourquoi pas beaucoup de miracles? Parfois, notre vision est trop petite. L'Éternel voulait que Ninive se repentît. Il a donc envoyé Jonas. L'Éternel veut toujours la repentance. Il nous a donc envoyés. Quand on parle de la vision GBU, cette idée de transmettre l'Évangile, il faut garder dans nos têtes qui est Dieu. Le Dieu qui a envoyé Jonas à Ninive est le même Dieu qui vous envoie vers les facs de France et d'ailleurs. Il est le même Dieu qui attend la repentance, qui a hâte de voir les gens venant à lui. Prions à ce Dieu. Père Céleste, c'est frappant cette réponse à Ninive. Parfois, on a du mal à croire que c'est possible qu'une telle grande ville puisse revenir en repentance à toi. Mais parfois, c'est juste parce qu'on ne te comprend pas. Notre vision de toi est trop petite. Tu es riche en miséricorde. Tu veux vraiment que tous les êtres viennent à toi. Et aussi, Seigneur, nous sommes désolés pour présumer sur ta grâce. On te prie que tu fasses de nous des gens qui ont ton caractère par rapport au péché. Qu'on ne soit pas comme Israël qui a toléré le péché, mais qu'on soit comme Ninive, en le confessant. On a appris beaucoup de fois à travers de ce livre combien tu es grand. On te prie que tu transformes les gens dans ce pays, que tu nous utilises pour les appeler à la repentance et que nous servent comme exemple pour les gens qui sont autour de nous. Pour que nous puissions, les gens qui vivent de la dépendance de toi. Et on te prie en le nom de Jésus, pour ta gloire seule. Amen.